accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla.
Bonjour à tous. Une page se tourne en Espagne. Après 47 ans de règne, le roi d'Espagne, Juan Carlos, a donc laissé la place à son fils Felipe. Officiellement, ce sont des problèmes de santé qui ont poussé le monarque à quitter ses fonctions. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron, directeur du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
On peut le dire, les multiples scandales qui ont éclaboussé la monarchie espagnole ne sont pas étrangers à cette démarche.
Alors Juan Carlos aurait pris sa décision en janvier dernier. Sa santé s'était dégradée et la remise en cause de la légitimité du monarque était de plus en plus vive. 2 Espagnols sur 3 souhaitaient l'abdication du roi. Les citoyens ne lui ont pas pardonné son escapade au Botswana pour chasser l'éléphant. Mais le coup de grâce a été l'implication de sa fille cadette, l'infante Cristina, dans un scandale de corruption et de détournement de fonds publics. À 76 ans, le roi d'Espagne laisse donc sa place à son fils, le prince Felipe.
Alors ces derniers temps, on abdique beaucoup en Europe. Comment expliquer cette vague de départ ?
Effectivement, en à peine un an, ce ne sont pas moins de 3 monarques qui délaissent leur trône au profit d'un de leurs fils ou de leurs filles. Et Juan Carlos n'est peut-être pas le dernier. Ça tangue également beaucoup pour Carl XVI Gustave, le roi de Suède. Alors en Belgique, c'est le roi Albert II qui a laissé le trône à son fils, Philippe, duc de Brabant, en juillet 2013. Le roi avait, comme Juan Carlos, mis en avant des problèmes de santé, l'obligeant à céder la place à son fils. Mais personne n'était dupe dans le royaume. L'assignation du roi des Belges en justice par sa fille illégitime Delphine Boel n'est pas étrangère à son abdication. Cette dernière exigeait de la justice des tests ADN afin de prouver sa filiation et accéder ainsi aux privilèges de la famille royale.
Et aux Pays-Bas, la reine a également abdiqué.
Oui, mais la reine Béatrix a abdiqué en douceur l'année dernière en faveur de son fils William Alexander. À 75 ans, elle a estimé qu'il était temps de transmettre la couronne à son fils. L'abdication du monarque est devenue d'ailleurs une tradition aux Pays-Bas, puisque avant Béatrix, sa mère, la reine Juliana, avait abdiqué en 1980 et sa grand-mère, la reine Wilhelmine, avait fait de même en 1948. La monarchie néerlandaise reste le pilier de l'identité nationale et selon un sondage, 3/4 des Néerlandais soutiennent la monarchie.
Alors bien sûr, tout le monde se pose la question, la reine d'Angleterre va-t-elle un jour abdiquer ?
Oh, vous n'y pensez pas, Frédéric. S'il y a bien une reine qui n'est pas prête d'abdiquer, c'est Elisabeth II. Malgré ses 88 ans, The Queen est sur le trône depuis plus de 60 ans, avec un soutien populaire exceptionnel compte tenu de sa durée. Selon un récent sondage, 77% des Britanniques veulent conserver la reine et la monarchie. Quant à son fils Charles, il n'en finit pas d'attendre. En juillet dernier, le mariage de son petit-fils William avec Kate Middleton et la naissance de son arrière-petit-fils, le prince George, a donné un coup de jeune à la monarchie.
Alors on connaît moins les monarques scandinaves, est-ce parce qu'ils n'ont aucun problème ?
Alors les monarchies du nord de l'Europe font effectivement rarement parler d'elles. Au Danemark, la reine Margrethe II règne depuis 42 ans et bénéficie d'une popularité oscillant entre les 80 et 90% d'opinions favorables. En Norvège, c'est Harald V qui règne sur le pays depuis 1991. Sa fonction est principalement honorifique. Il est lui aussi le symbole de l'unité nationale. Ainsi, au lendemain, on se souvient qu'au lendemain de l'assassinat de 76 personnes à Oslo et sur l'île d'Utøya en juillet 2011, il était au chevet de son peuple. En rencontrant les familles des victimes, il a aidé le pays à se relever de ses blessures.
Mais il y a une exception en Scandinavie, c'est le roi de Suède qui lui est très impopulaire.
Oui, vous avez raison, Frédéric. Le monarque suédois est le contre-exemple de cette exemplarité des têtes couronnées nordiques. La situation du roi Carl XVI Gustave, arrivé sur le trône en 1973, n'est pas sans rappeler celle de Juan Carlos en Espagne. Mais en fait, il est le plus souvent comparé à Silvio Berlusconi du fait de son goût immodéré pour les jeunes femmes et ses soirées bunga bunga à la mode suédoise. Ce qui fait que ses compatriotes sont pressés de voir la belle princesse Victoria lui succéder.
Merci Daniel Vigneron pour ce tour européen des têtes couronnées. À très bientôt.
À bientôt Frédéric.
Istanbul, Bruxelles, Bruxelles, Istanbul. On compte de plus en plus de Belgo-Turcs qui font le trajet du retour vers leurs origines. Pour la plupart, ce sont les enfants de ceux qui ont émigré en Europe dans les années 60. En 1964, un traité de migration scellait d'ailleurs le rapprochement entre la Turquie et la Belgique. Aujourd'hui, ces trentenaires voient dans la Turquie une terre d'opportunités. Difficile de les dénombrer, mais comme l'a constaté Anand Lauer, le retour sur la terre de leurs ancêtres peut parfois se révéler compliqué.
Entre ces deux pays, Tolga Eken n'a pas choisi. Depuis 5 ans, cet homme d'affaires de 36 ans promène son attaché-case entre Bruxelles et Istanbul. 6 mois ici, 6 mois là-bas. Il n'a pas choisi, ou plutôt, il a préféré ne plus choisir entre son pays de naissance, celui où il a grandi et travaillé un certain temps, la Belgique, et celui de sa famille, la Turquie. Tolga Eken n'est pas le seul citoyen belge issu de l'immigration turque à être venu faire carrière sur les rives du Bosphore. Il est d'autant mieux placé pour le savoir qu'il est aussi secrétaire général de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Turquie. Et des jeunes belgo-turcs de retour, comme lui, il en croise de plus en plus, notamment dans les entreprises.
Je vois qu'il y en a de plus en plus, mais c'est plus les compagnies belges qui envoient les Belges d'origine turque pour travailler ici. Ils ont plus facile à travailler en Turquie, connaître la mentalité, connaître les règles. Quand vous avez une compagnie étrangère avec un directeur général étranger, et quand vous êtes turc et vous voulez faire de travail avec eux, vous avez un peu, comment dire, vous n'avez pas à vous entendre parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. Quand c'est quelqu'un de turc, ça vous aide, vous avez plus confiance. C'est la mentalité en Turquie.
Ça ouvre des portes.
Ah oui. Oui, oui.
Avec sa croissance encore enviable par rapport à la vieille Europe, la Turquie est synonyme de dynamisme et d'opportunité. C'est en tout cas l'image qu'elle a aux yeux d'Emre Kuşkon, un étudiant en génie mécanique à l'Université technique d'Istanbul. Emre a grandi à Namur, mais il est revenu à Istanbul avec toute sa famille, et c'est ici qu'il envisage de faire ses premiers pas professionnels.
Parce qu'en Belgique, je m'en rappelle, enfin, des jours j'allais à Bruxelles, je revenais, j'allais trois fois à Bruxelles, je revenais, je m'ennuyais toujours. Ici, c'est un petit peu plus, voilà, j'ai beaucoup plus de choses à faire, j'ai beaucoup plus de rêves à accomplir, je veux dire, il y a beaucoup plus de concurrence.
Vous faites sans doute vos premiers stages. Est-ce que vous avez l'impression, en Turquie, dans les entreprises, que votre double profil, turc et belge, européen, est recherché?
Tout à fait. Ce qu'ils recherchent maintenant, je pense, c'est aussi connaître une culture. Connaître une culture et une langue pour pouvoir bien dialoguer entre les firmes ou alors les représentants. C'est ça qu'ils recherchent. Et puis aussi avoir la nationalité est un grand avantage pour ne pas avoir de visa.
Pour ceux qui, contrairement à Emre, ont fait ce voyage seul, par choix, la décision de quitter la Belgique n'est pas toujours comprise. Lorsqu'il y a une vingtaine d'années, Barry Güler a annoncé à sa famille qu'elle partait vivre à Istanbul pour suivre son amour de jeunesse, ni ses parents, ni ses 6 frères et sœurs, tous restés en Belgique, m'ont approuvé sa décision.
J'ai eu toute la famille contre moi, déjà mon père, parce qu'en fait, eux avaient justement fait ce voyage pour aller vivre mieux. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je reculais en arrière, en fait. Donc, pour eux, ça a été c'était une catastrophe, hein. Catastrophe, franchement. J'ai eu tout. Tu ne sauras jamais vivre là-bas. Rien que la liberté, tu ne l'auras pas. Tu ne sauras pas te balader en mini-jupe. En fait, j'ai continué à vivre ici, comme je vivais là-bas, donc dans la même liberté. J'ai pas été refermée, j'ai pas été clôturée, j'ai pas eu des interdictions. Si j'avais eu ce ressentiment d'une mauvaise adaptation, je crois que oui, je serais retournée.
Barrier, dont l'époux dirige une entreprise d'ustensiles de cuisine, n'a pas eu à chercher un travail à Istanbul. Mais tous ceux qui débarquent sans connaître personne, dans l'espoir d'être embauchés quelque part, ne sont pas forcément accueillis à bras ouverts. Fatma, 29 ans, vit en Turquie depuis 2 ans, après 27 ans à Namur et des études de photo à Bruxelles.
La Turquie, c'était un rêve. J'avais toujours rêvé de venir vivre ici, par curiosité. Enfin, j'étais curieuse de savoir que serait ma vie ici, en Turquie, le pays de mes origines. Mais je ne connaissais pas la Turquie. Je veux dire, quand tu viens en vacances, c'est différent. Tout te semble très beau et tu commences à idéaliser, en fait. Et c'est par après, quand tu t'installes, que tu commences à travailler, que tu te rends compte que c'est pas vraiment exactement la même chose. J'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai quand même vite trouvé. J'ai trouvé en 3 mois. Pourtant, c'est un pays assez épotique, parce que tout fonctionne avec des pistons en Turquie.
Fatma a travaillé 10 mois dans une agence de presse comme photojournaliste. La jeune femme n'a pas réussi à s'intégrer, à se faire accepter. Une désillusion brutale.
C'est ici que j'ai vécu la discrimination. Je n'avais jamais vécu la discrimination auparavant. J'ai vécu la discrimination sexuelle, je trouve. Le photojournalisme, j'avais des supérieurs hiérarchiques qui me disaient que ce n'était pas un métier de femme. Mais en plus, on m'appelait Belgique, la Belge.
Fatma refuse de généraliser et vient d'ailleurs de retrouver un travail dans une université où elle donne des cours de photo. Elle se dit, comme beaucoup de Belgo-Turcs qui ont pris le même chemin, que la Belgique demeure, quoi qu'il arrive, son autre pays. Et qu'elle aurait regretté de ne pas avoir tenté l'aventure en Turquie.
Faire table rase du passé, ou en tout cas se débarrasser des statues de l'époque communiste tchécoslovaque qui encombrent le centre-ville de Prague, c'était la règle suivie par la municipalité jusqu'à ce qu'un artiste décide que certaines méritent d'être sauvées, notamment pour leur valeur symbolique. À Prague, Alexis Rosenzweig.
Des enfants qui pataugent sur une forme ondulée en granit assez surprenante dans un coin d'une des grandes places des hauteurs de Prague. Cette étrange fontaine, installée en 81, a été baptisée Europe Unifiée. Elle est aujourd'hui en assez mauvais état et surtout menacée de disparaître de cette place qui doit être entièrement rénovée selon un plan âprement discuté au sein du conseil municipal du 3e arrondissement de la capitale tchèque. Cette fontaine fait partie des centaines d'œuvres érigées pendant la période de normalisation, environ 1800 en tout dans la ville, qui rappellent à de nombreuses personnes le passé totalitaire du pays et des heures sombres où l'art devait forcément servir l'idéologie du régime en place après l'écrasement du printemps de Prague. Pourtant, certains artistes contemporains s'emploient aujourd'hui à montrer que les œuvres sculptées à l'époque sont loin d'être toutes des apologies du communisme et qu'il faut s'employer à protéger des monuments qui ont une réelle valeur historique. Le jeune sculpteur Pavel Karaus a lancé dans ce sens un projet intitulé « Alien et Héron » en référence aux formes de cocons extraterrestres ou de volatiles fréquemment érigés pendant ces années 70 et 80. Il organise des visites guidées de Prague, lors desquelles il raconte l'histoire de ses ouvrages et de leurs auteurs, qui ont parfois pu continuer à survivre grâce à ces commandes d'État, alors qu'ils étaient interdits de toute autre forme de création. L'Institut national du patrimoine tchèque a fini par mettre en place une commission chargée de répertorier ce qui pouvait être encore sauvé, dans un contexte où, comme le regrette Pavel Karaus, l'anticommunisme exacerbé ne permet pas de discussion dépassionnée sur l'avenir de ces statues et autres plastiques, qui pourtant, précise-t-il, ne comportent aucune étoile rouge, ni marteau, ni faucille.
Comment se réconcilier à la veille des commémorations du 6 juin 1944 ? Les Français et les Allemands ont largement démontré leur savoir-faire en la matière. Une expérience qui vient aujourd'hui servir de modèle pour la réconciliation franco-algérienne. Jeunes artistes, représentants du monde associatif, issus des trois pays, France, Algérie et Allemagne, se sont réunis la semaine dernière à Berlin autour de la création d'une pièce de théâtre. C'est le reportage de Julien mes chaussiers.
Avant de démarrer une nouvelle journée de travail, la trentaine de participants se retrouvent pour se donner l'énergie et prendre connaissance du programme. Cette semaine à Berlin constitue la troisième phase de l'échange avec deux précédents séjours à Marseille et à Oran. Toujours avec ce leitmotiv, ce souvenir pour construire l'avenir. Un échange trinational qui souhaite s'inspirer de l'expérience franco-allemande et rapprocher les jeunesses algériennes et françaises. Participant et directeur d'un centre social dans le 11e arrondissement de Marseille, David a une longue expérience des échanges franco-allemands.
Quand je discutais avec mon arrière-grand-père de l'Allemagne, on ne pouvait même pas discuter d'ailleurs, c'était l'ennemi. Beaucoup de ma famille a disparu pendant la guerre et quand je vois ce que sont devenus la France et l'Allemagne, quand on fait des échanges avec les jeunes, on sent vraiment une amitié, voilà, il n'y a plus de rivalité. Quand je vois concrètement le nombre de jeunes qui participent à des échanges binationaux, voilà, il y a au moins de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Tout ne fonctionne pas comme on voudrait, mais c'est quand même un bon point de départ.
Plus de 50 ans après l'indépendance, le dialogue interculturel entre l'Algérie et la France reste à l'état d'embryon. À milieu du chemin accompli par les deux partenaires européens réunis au sein de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui, via ses financements, a permis à des millions de jeunes de se rencontrer. Une institution qui s'ouvre désormais à la Méditerranée.
Ça marche trop fort, je sais pas pour vous, mais ça marche trop fort.
Originaire d'Oran, Rihab fait partie de la compagnie Istijam. Passionnée de théâtre, l'outil choisi pour travailler par les participants, elle encadre ces derniers avec deux autres associations marseillaises et berlinoises, Interculturelle et le Babop. Consciente du caractère pionnier de cet échange, l'aspect trinational joue pour Rihab un rôle décisif.
Cette question a fait un grand débat pendant la première phase de Marseille. Et l'image qui est ressortie, en tout cas, c'est comme deux personnes qui ont vécu quelque chose ensemble et que ça n'a pas été évident pour les deux côtés. Donc il y a tout de suite conflit, confrontation. C'est-à-dire on prend l'exemple de l'Algérie et la France et on met ces deux personnes-là, elles vont tout de suite rentrer en conflit. Mais dès qu'une troisième personne, elle est là, elle intègre ce processus, ça change beaucoup de choses. Ça permet de prendre du recul, ça permet, on sent quand même qu'il y a un apaisement.
J'arrive à placer le modèle franco-allemand comme modèle pour la réconciliation entre la France et l'Algérie et la création d'un office franco-algérien pour la jeunesse.
Mais déjà que Hollande et Merkel s'entendent pas, alors si vous rajoutez Bouteflika au milieu...
Jour J, dans la salle fraîchement rénovée du Centre français de Berlin. La pièce, composée de 4 actes, est retravaillée à chaque rencontre. Entre invitation à la réflexion sur la représentation culturelle et les préjugés, ou encore, comme dans cet extrait, sur l'immigration. Dans un monde où les flux migratoires seraient inversés, avec des Européens qui fuient vers l'Afrique du Nord.
Vraiment, il y a tout qui se perd. Et les enfants qui grandissent ici, ils connaissent même plus le goût du saucisson.
Pour Rafik Mousli, responsable de l'association marseillaise Interculturelle, cet échange n'est qu'un début.
Il faudrait vraiment aller chercher les petits-enfants des pieds noirs, des harkis, toutes les personnes qui ont vécu cette période, qui ont été touchées dans leur famille par cette période de l'histoire. Et puis les nouvelles générations surtout, parce que construire un futur sur le principe du dialogue interculturel entre l'Algérie et la France, et aujourd'hui, c'est nécessaire.
Une aventure qui va se poursuivre dès le mois de septembre prochain avec une dernière rencontre à Marseille.
Son handicap aurait dû lui barrer définitivement les portes de la musique. Seinmark est sourd et muet, mais il vient de sortir en Finlande son 3e album de rap. Il compose et écrit grâce au son de basse qu'il peut sentir. D'autres rappeurs chantent ses textes et lui-même se produit en langue des signes, histoire d'un parcours atypique signé Pauline Curté.
Des cheveux blonds, un regard perçant, grave. Dans les clips de ses chansons, Seinmark décrit ses paroles en langue des signes d'un air volontaire, résolu. De la volonté, il lui en aura fallu pour arriver à ses fins. Qui aurait cru qu'en quelques années, un garçon muet puisse sortir 3 albums de rap ? Dans le dernier en date, disponible depuis début mai, Seinmark signe en langage américain et non finnois comme c'était le cas jusqu'à présent. Une façon pour lui de mieux se faire connaître à l'étranger, alors que son art commence à passer les frontières de la Finlande. Depuis tout petit, Seinmark, qui est né dans une famille sourde et muette, a traduit des chansons en langue des signes. S'il s'est lancé dans le rap, c'est parce qu'il a la capacité de ressentir les sons de basse, très lourds, typiques de ce genre musical. C'est aussi parce que le rap lui permet d'exprimer sa philosophie. Dans ses chansons, il insiste sur le fait que la langue des signes n'est pas qu'un moyen pour les sourds-muets de se faire comprendre, que cette langue représente aussi une culture à elle toute seule. Pour montrer la complexité de cette culture, il a même composé une chanson pour son dernier album en langue des signes de Chine du Sud, dans laquelle il parle de violation des droits de l'homme. En Finlande, sa célébrité a permis de mieux faire connaître la condition des sourds-muets. Il a même été nommé en 2010 ambassadeur des droits des personnes handicapées pour le pays nordique. Et le rappeur n'exclut pas de quitter la musique dans quelques années pour se lancer en politique. Clairement, Seinmark n'a pas fini de faire les gros titres.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et sur Facebook. À demain.